Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Émission spéciale ce matin à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale du droit des enfants. Le 20 novembre 1989, presque tous les pays du monde adoptaient cette charte des droits fondamentaux des mineurs. Conditions de vie, éducation, travail, liberté d'expression, nous détaillerons ce matin quelques-uns de leurs droits. Comment les enfants peuvent-ils les faire valoir? Comment protéger et conforter ces droits? Comment améliorer leur mise en œuvre? Les enfants ont-ils d'ailleurs tous les droits? Nous verrons quels sont leurs devoirs, notamment au sein de la famille. Avec nous ce matin, Florine Pruchon de l'association SOS Village d'Enfants, Gwenaëlle Boulet du bimensuel Astrapi, et avec Emmanuel Lucas du quotidien La Croix, notre complice ce matin. Les enfants et les adolescents peuvent nous appeler pour évoquer leurs droits, poser toutes leurs questions, témoigner. C'est Fréquence Mom ce matin, 01 45 24 7000. Et vous pouvez également nous contacter sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Quelle sera votre ordonnance philosophique vers 11h25?
Bien, inviter les adultes que nous sommes peut-être à retrouver l'enfant qui est en eux.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Florine Pruchon.
Bonjour Ali.
Vous êtes l'une des responsables de l'association SOS Village d'Enfants. Présentez-nous cette association, quelques mots.
Oui, bien sûr. Donc SOS Village d'Enfants est une association qui a un petit peu plus de 60 ans, une association et une ONG qui œuvre dans le secteur de la protection de l'enfance en France. Donc on accueille des enfants qui nous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance et on conduit également des programmes dans plus de 20 pays dans le monde pour soutenir des projets autour de la protection de l'enfance. Et on est membre d'une fédération internationale qui est présente dans plus de 130 pays.
Et vous participez activement à cette journée aux côtés d'une trentaine d'organisations.
Oui, tout à fait. SOS Village d'Enfants a initié une dynamique qui s'appelle la dynamique de la convention OSAC, que j'ai le plaisir de coordonner, et qui rassemble aujourd'hui 35 associations, organisations et ONG qui se sont unis pour parler d'une même voix et faire 69 propositions aux décideurs publics pour passer de la convention aux actes 30 ans après son adoption et faire en sorte que les droits de l'enfant soient mieux respectés en France et dans le monde.
Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef du bimensuel Astrapi et vous publiez un livret qui est très bien fait, qui s'appelle « Tous les enfants ont des droits ».
Oui, c'est un livret qu'on a travaillé avec la Dynamique, justement, avec l'ensemble des associations, et qui a été publié à 230 000 exemplaires, tiré à 230 000, et pour nos abonnés, et puis diffusé par l'ensemble des associations. L'objectif, c'était de faire justement un petit outil vraiment destiné aux enfants, pour qu'ils apprennent à connaître mieux leurs droits, que ce soit pour les enfants du monde, et puis aussi pour des enfants en France, parce qu'on pense souvent que les droits ne sont pas respectés à l'étranger, à l'international, et qu'ils le sont en France, mais on va voir que c'est loin d'être le cas. Voilà, donc les aider à mieux connaître leurs droits. Voilà.
Bonjour Emmanuel Lucas.
Bonjour.
Vous proposez ce matin dans La Croix un dossier consacré aux 30 ans de la Convention internationale du droit des enfants, enquête notamment sur les droits de l'enfant au miroir de l'autorité parentale.
Ouais, tout à fait. Parce que là, en fait, maintenant, bon, la convention est inscrite dans le paysage, mais à l'époque de son adoption, elle avait fait, elle avait suscité des débats interminables et beaucoup de gens se disaient, mais c'est la fin du pouvoir des parents. Les enfants vont prendre les commandes de la famille. Quelle horreur. Et c'était intéressant de voir 30 ans après comment, paradoxalement, peut-être aussi, c'est une occasion de réfléchir aux droits. Et au devoir, pardon.
Avec nous également en studio, Gabriel. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Tu as 14 ans, c'est ça?
Tout à fait.
Tu viens d'où et tu es en quelle classe?
Je suis en 3e au collège d'Aubigny à Auvers-sur-Oise.
Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Tu as 10 ans?
Oui.
Et tu viens d'où?
Je viens de l'école Henri Quatremer à Noisy-le-Sec.
Et tu es en quelle classe?
Je suis en CM2.
Et vous avez le droit ce matin d'intervenir, mais quand vous voulez, voilà, vous avez même le droit de nous interrompre. Vous pouvez témoigner également de ces droits, hein, notamment à la maison. Florine Pruchon, le 20 novembre 1989, c'est une date fondamentale pour les enfants. Il s'agit du traité le plus largement ratifié de l'histoire.
Effectivement, Ali, la Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par l'ensemble des États des Nations Unies il y a 30 ans aujourd'hui, excepté les États-Unis qui ne l'ont pas ratifiée à ce jour. C'est une convention qui s'applique sur l'ensemble des territoires et qui invite les États à protéger les enfants. Quand on dit les enfants, c'est-à-dire toute personne qui a entre 0 et 18 ans.
S'agit-il d'une convention juridiquement contraignante?
Bien sûr, c'est toute l'avancée en fait de cette Convention internationale des droits de l'enfant, puisqu'on avait eu plusieurs traités en amont. En 1924, on avait une déclaration des droits de l'enfant, puis en 1959, mais qui n'était pas contraignante. Et en 1979, l'ensemble des États se sont dit qu'ils allaient travailler ensemble à l'initiative notamment de la Pologne. Et ils ont œuvré pendant 10 ans ensemble pour trouver un texte qui fasse consensus et qui ait surtout une dimension contraignante pour protéger les enfants.
Alors partout dans le monde, les enfants peuvent subir le travail forcé, l'esclavage, les mariages forcés, le trafic d'enfants, les violences. 250 millions d'enfants subissent par exemple des guerres et des conflits. Quelles sont les grandes améliorations notables depuis 1989 ?
Déjà, on peut parler autour de la question du droit à l'éducation, grâce à la fois cette Convention internationale des droits de l'enfant, mais aussi avec les objectifs du millénaire pour le développement, qui s'inscrivent dans la continuité aujourd'hui avec les objectifs de développement durable, adoptés en 2015. On voit qu'il y a quand même de plus en plus d'enfants qui sont scolarisés grâce à ces textes. Et on voit aussi que la mortalité infantile des enfants diminue dans le monde.
Gwenaëlle Boulet.
Oui, ce sont des grandes avancées. Ça, c'est important de se le redire quand on fête les 30 ans, de voir tout ce qu'il y a encore à faire, mais effectivement de noter toutes les avancées. Et ensuite, dans ce qu'il y a encore beaucoup. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la notion de qui était avant la convention. La convention s'est inscrite aussi dans toute une réflexion sociétale. On se souvient de Dolto, la reconnaissance de l'enfant qui est une personne. Je trouve que c'est vrai que 30 ans après, on voit quand même que l'enfant a pris une place dans la société, dans la famille, etc., et qu'on lui reconnaît globalement l'idée qu'il y a une personne avec des besoins spécifiques et que nous, en tant qu'adultes et État, on a à y répondre.
Et oui, pour la première fois, une convention internationale reconnaît les enfants comme des sujets de droit. Et l'un des grands principes de cette convention, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça veut dire quoi exactement, Florine Pruchon ?
Alors, l'intérêt supérieur de l'enfant, cela signifie que quand on prend une décision pour l'enfant, on la prend dans le meilleur intérêt pour lui. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte l'intérêt des adultes qui sont autour, mais on met au cœur l'enfant. Et ça, c'est une grande avancée grâce à ce texte.
Alors, quels sont les grands principes de cette convention ? On peut regrouper le droit des enfants autour des 3 P.
Oui, les 3 P. Donc, c'est les droits à la protection. Donc, par exemple, la protection contre toute forme de violence. Les droits à la prestation. Par exemple, la question de la scolarisation. La question de vivre dans des conditions de vie décentes. Et le dernier, on y reviendra tout à l'heure, je le sais, qui me tient beaucoup à cœur, c'est le droit à la participation des enfants et des jeunes sur toutes les décisions qui les concernent.
Charlotte Gabriel, est-ce que vous avez l'impression de participer suffisamment à la vie publique, à la vie démocratique de notre pays, de ta ville, Gabriel ?
Bah, à notre échelle, mais... On nous donne quand même la possibilité à des rôles importants. On élit des délégués et après les délégués élisent un délégué de tout le collège qui... Je suis délégué du CA et qui...
Du conseil d'administration.
Tout à fait.
Je l'ai été aussi, oui. C'est formidable.
Oui. Et qui vote pour les nouvelles règles. Et le vote d'un enfant compte pareil que celui d'un adulte, donc le principal. Son vote a la même valeur que le nôtre.
Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce rôle de délégué au conseil d'administration ?
Bah, c'est quand même pouvoir agir sur et pas juste subir, même si c'est pas subir dans le sens où, mais c'est que quand même on peut porter notre voix et puis j'aime bien représenter les enfants parce que j'ai aussi cette écoute que je peux prêter et que je peux bien retransmettre, je pense.
Charlotte, est-ce que toi tu as l'impression de suffisamment participer à la vie démocratique, publique de ta ville, ou même du pays, pourquoi pas, soyons ambitieux.
Moi je trouve que qu'élire des délégués ou des enfants pour le conseil des enfants de ma ville, c'est bien, mais des fois même si on les élit, je trouve que des fois on n'écoute toujours pas assez les enfants.
Pourquoi ? Pourquoi, à ton avis, on les écoute pas assez ?
Bah, les adultes, ils écoutent les enfants des fois, mais pour eux, écouter, c'est écouter, mais ils ne font pas des fois.
T'as la même impression, Gabrielle ?
Moi, je pense que quand même, on nous écoute, mais après, ça dépend des personnes plus que de la société, je trouve.
Gwenaëlle Boulet.
Oui, moi, je suis assez d'accord avec. J'entends les deux, mais je trouve que Charlotte a assez raison. Je trouve qu'on ne les écoute pas assez. Donc, il y a des instances dans les villes qui sont mises en place, les conseils d'enfants, etc., les délégués. Mais c'est pas dans toutes les écoles, c'est pas dans toutes les villes, ça reste encore, c'est pas obligatoire, voilà. Et puis, par exemple, moi, ça m'avait beaucoup marqué au moment de la réforme des rythmes scolaires. Alors, on avait fait des consultations des parents. Alors, tous les parents y allaient surtout pas le samedi parce qu'on a notre maison de campagne, surtout pas le mercredi parce que c'est compliqué. On a demandé aux enseignants qui avaient leur propre raison de choisir l'un ou l'autre. Mais alors, les enfants, sur le rythme scolaire, savoir s'ils étaient fatigués, pas fatigués, quelles étaient 2 heures de trou dans la journée, est-ce que c'était bien ou pas, etc. Rien. Pas une écoute des enfants sur cette question du rythme scolaire. Et au final, toutes les villes ont pris leurs décisions en fonction, justement, pas de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais de questions budgétaires et autres. Et je trouve qu'on leur donne absolument pas, moi, assez la parole sur plein de choses qui les concernent.
Je rejoins tout à fait Gonaël sur cet aspect-là, puisqu'en effet, les enfants, ils ont une expertise d'usage, des expertises d'expérience, parce qu'on a tous été enfants il y a un temps, mais on n'est plus les enfants d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que si on veut construire des choses pertinentes et adaptées par rapport à la situation actuelle, il est important d'associer les enfants. Mais également, associer les enfants, ça demande une volonté, puisque on va donner du pouvoir aux enfants. Comme le disait Gabriel, ils peuvent voter, donc c'est un adulte de moins qui va voter. On donne du pouvoir aux enfants, donc il faut accepter de perdre du pouvoir. Et il faut aussi se donner des moyens. Quand je dis des moyens, c'est à la fois du temps et aussi des personnes pour accompagner ces enfants.
Emmanuel Lucas.
Oui, ça se voit aussi face à la justice. Par exemple, dans les décisions de divorce, d'autorité parentale, en fait, les enfants sont relativement, enfin, très très peu écoutés. Mmh. Et c'est pas, alors qu'ils sont les premiers concernés, finalement.
Ouais. Thibaut Saint-Maurice.
Alors, on risque de paraître un petit peu... Réac. non, mais je veux dire, après tout, qu'on écoute un enfant, mais qu'on ne prenne pas forcément la décision qu'il souhaite, c'est quand même aussi de la responsabilité des parents. C'est-à-dire que ce qui me semble intéressant dans cette charte des droits de l'enfant et dans cette discussion-là, c'est aussi de penser cette articulation et de réexpliquer aussi ce que c'est qu'une autorité parentale. Parce qu'en creux, il y a aussi la question d'une bonne autorité parentale. Il faut aussi, la question de la transmission. Les enfants aussi ne peuvent pas prendre toutes les décisions et sont aussi en formation, sont aussi pas toujours responsables.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur un point. C'est quand je parle d'associer les enfants, c'est-à-dire quand on va prendre une décision, on va leur demander leur avis. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ce qu'ils nous recommandent, ça veut dire qu'on va les associer et qu'après, on va prendre la meilleure décision pour le groupe ensemble. Ça, c'est quand même quelque chose qui est essentiel à souligner.
Et puis peut-être, il y a un trait, on parle effectivement d'autorité parentale, mais justement, les droits de l'enfant, je crois, on fait passer de l'autorité parentale à la responsabilité parentale, qui n'est pas exactement la même chose. Et c'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement, c'est les questions qu'évoquait Emmanuel Lucas sur la famille qui s'est demandé, mais alors le parent va plus avoir le droit de choisir, etc. Si, il y a bien sûr une liberté d'éduquer, mais dans un cadre qui lui est effectivement supérieure et qui permettent d'encadrer cette éducation. Donc bien sûr qu'il reste la liberté d'éduquer, de faire un certain nombre de choix pour ses enfants, etc. Mais il y a ce cadre supérieur qui protège l'enfant.
Allez, les enfants et les adolescents peuvent nous appeler pour évoquer leurs droits au 01 45 24 7000. Faites comme Charlotte et Gabriel. N'hésitez pas à appeler le standard massivement. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarez et Dimitri Henault m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter.
In the morning, too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming, do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms, I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready, it's not raining today. I'm late and I must hurry, welcome to my way. I'm sorry, it's not raining today. Kill the light, I can see.
Time is running out, ghost keeping me alive. I get what it means, you have to survive. Time is running out, ghost keeping me alive. I get what it means, you have to survive.
You know I'm on the road, tonight, ever since this morning, your kiss is on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. What they're saying to me, I gotta smile, smile, smile. Forget, forget, forget it, I'm on obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try, try, try. Escape, escape, escape your miseries. Stop the motion, I got the solution. Wake up, focus, sleep and get free.
Time is running out. Don't keep me alive.
Skip the Use, interprété Ghost.
C'est la journée spéciale.
Journée, les enfants d'abord.
Sur France Inter.
10h21, émission spéciale à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits des enfants. Florine Pruchon, je rappelle que vous êtes responsable à l'association SOS Village d'Enfants. Qui peut faire respecter le droit des enfants?
Merci Ali. Donc le respect des droits de l'enfant, en fait, c'est les États qui, de fait, d'avoir ratifié cette Convention internationale des droits de l'enfant, ont l'obligation de faire en sorte que les droits de l'enfant soient respectés. Et pour cela, tous les 5 ans, ils passent devant un comité d'experts qu'on appelle le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, et ils doivent expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait durant ces 5 dernières années pour améliorer la situation des enfants sur leur territoire. Et ils reçoivent des recommandations à ce moment-là pour les 5 prochaines années, pour faire évoluer un peu la situation des enfants. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette convention a une dimension contraignante. Et ça, c'est vraiment important, ce rôle de contrôle.
Vous estimez que les enfants, les adolescents, les professionnels ou encore le grand public ont une connaissance suffisante des droits de l'enfant?
Bien sûr que non, malheureusement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire progresser sur cet aspect-là. Aujourd'hui, plusieurs études montrent que quand on interroge un enfant, moins d'un sur deux a déjà entendu parler des droits de l'enfant, alors que c'est au programme scolaire, et qu'on voit que ce n'est malheureusement pas toujours abordé aujourd'hui. Et quand on... Il y a une enquête également du Défenseur des droits qui est de 2016 qui stipule que seule la moitié des personnes interrogées peuvent spontanément citer au moins un droit de l'enfant, et moins d'un quart mentionne le droit de l'enfant d'être protégé contre les violences.
Gabrielle, avec nous, je rappelle que tu as 14 ans, est-ce que tu as conscience de tes droits?
Bah oui, après je vais pas mentir, avant l'émission j'avais jamais entendu parler de la convention. Mais je vais pas mentir.
C'est bien.
Je me suis renseignée, du coup je suis un collab, mais mais on les sait parce que c'est nos droits, mais sans vraiment les pouvoir les citer et peut-être mal, on les sait mal.
Charlotte, je rappelle que tu as 10 ans, tu avais conscience que tu avais des droits avant de venir dans cette émission?
Je savais que j'avais des droits, mais je les connaissais pas tous entièrement.
Mmh. Alors, en France, les droits fondamentaux comme la santé ou l'éducation sont plutôt bien connus, Florine Pruchon.
Oui, globalement, tout à fait. Après, on voit quand même, au niveau de la dynamique de la Convention aux actes, on publie officiellement aujourd'hui 69 propositions qu'on remet ce soir aux décideurs publics. On a une grande soirée, on va remettre ces actes publiquement. Et une de nos demandes, notamment, c'est que les enfants autour de la santé aient accès aux soins dits secondaires et de manière gratuite. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de soins dits secondaires, quand je pense par exemple tout ce qui est ophtalmologie, gynécologie, etc. Ce sont des soins souvent dont des enfants sont privés du fait qu'ils ne soient pas remboursés pleinement.
Gonelle Boulet.
Oui, je crois que je ne pourrais pas dévoiler trop de choses, mais je crois qu'il y a aussi dans les propositions, et je trouve ça très intéressant, la question des médecins scolaires. Mmh. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, j'ai plus le chiffre parce que j'ai oublié mes chiffres, mais c'est fou, je crois que c'est un médecin scolaire pour 12 500 enfants. Mmh. Voilà, de tête, je crois que c'est ça, ce qui est complètement fou. Alors qu'on sait que la médecine scolaire, ce serait vraiment le lieu pour pouvoir détecter un certain nombre de choses, y compris dans ce qui se passe dans les familles de type violence, maltraitance, etc., dont on sait que ce sont des chiffres très importants. Et ça, par exemple, je trouve que ce serait vraiment une décision importante à prendre.
Florine Pruchon, avec 35 organisations, vous avez eu envie d'insuffler une nouvelle dynamique à l'occasion de cet anniversaire, avec 12 actes qui visent à mieux garantir le droit des enfants.
Oui, c'est ça, c'est une grande première en fait en France aujourd'hui. L'ensemble des grandes associations, et même des plus petites, des associations de taille différente, qui œuvrent dans des domaines différents, ont décidé de s'assembler au sein de la dynamique de la Convention aux actes, à l'initiative de SOS Village d'Enfants, pour faire des propositions aux décideurs publics, pour améliorer la situation des enfants en France, dans la politique nationale, mais aussi dans la politique internationale de la France. Donc 69 propositions qui sont d'ailleurs en ligne à partir d'aujourd'hui sur le site de la Convention aux actes, qui sont consultables à tous.
Le site, c'est
delaconventionauxactes.org.
Lucas a 7 ans. Il souffre d'un asthme sévère. Tous les 3 mois, il doit mesurer sa capacité pulmonaire.
Tu vas mettre ça dans la bouche, tu te rappelles ? Souffle encore. Bien, 2 bougies. Merci.
Ses bronches sont un peu plus irritées à chaque grosse crise d'asthme. La dernière coïncide avec le pic de pollution de l'automne dernier, la pollution automobile, l'une des pires pour les enfants.
Les enfants sont vraiment les personnes les plus vulnérables. Les particules polluantes inhalées sont proportionnellement, par rapport au poids de l'enfant, beaucoup plus importantes que chez les adultes. Et chez des bronches qui sont déjà un peu fragiles, eh ben, ça augmente encore la sévérité de leur maladie.
Car les particules fines pénètrent dans le sang. Elles ont donc un impact sur le cœur, peuvent créer des maladies cardiovasculaires ou inflammatoires. Les polluants atmosphériques seraient donc des facteurs de risque importants. Comment faire pour protéger les plus fragiles ? Terence a 3 ans. Il est asthmatique depuis l'âge de 5 mois. Sa pédiatre l'envoie régulièrement en cure climatique à la montagne.
Je pense que le climat lui a bien profité.
Ah ben, c'est clair, hein, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'un environnement moins pollué, ça permettait vraiment de permettre aux bronches de se reposer et de ne pas être sans arrêt irrité par les polluants qu'on inhale.
Extrait du JT de France 2 en janvier 2017, Florine Pruchon, les enfants ont le droit de vivre dans un environnement sain et non pollué. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 3 sur 4 respirent un air toxique dans notre pays.
Oui, effectivement, c'est une... Au niveau de la dynamique de la Convention aux actes, on a organisé une grande consultation des enfants pour nous aider à rédiger ces actes et pour qu'ils les consultent avec nous. Et je souhaiterais partager une citation qu'on a eue parmi les enfants, parce qu'au début, on n'avait pas prévu de faire un acte sur l'environnement. Et de fait, des retours des enfants, ça fait partie d'un des 12 actes. Donc je vais lire la citation d'un enfant, c'est « Je souhaite encourager le président Macron à faire de l'écologie sa priorité et avoir le courage de prendre les décisions qui sont nécessaires, servir d'exemple et ne pas se soucier des réactions. » Je crois que c'est bien résumé.
Et dès leur plus jeune âge, les enfants sont exposés à des polluants, des perturbateurs endocriniens qui peuvent entraver leur développement, Gonelle Boulet.
Oui, ça c'est intéressant de voir que du point de vue des adultes, et puis parce que la Convention a 30 ans aussi, on voit que c'était pas un sujet qui existait, enfin dans la vision qu'on avait de l'enfance. Et en fait, il s'impose à nous par les enfants. Et pareil, dans la Strapie, on a une grande consultation qu'on va remettre à Madame Macron bientôt, qui est dans laquelle les enfants expriment avec force le droit de vivre dans un monde vivable. Et vraiment, ils s'interrogent. On avait une des questions qui était « Est-ce que vous pensez que les adultes agissent assez ?» Et alors, il y avait des choses très mignonnes, genre, non, mais on comprend, c'est dur de changer ses petites habitudes, hein, il y a des choses comme ça. Mais on sent, ils ont quand même du mal à comprendre pourquoi les adultes ne prennent pas en compte cette chose qui est de l'ordre de la vie, quoi.
Gabrielle.
Bah, c'est vrai qu'il y a 30 ans, c'était pas une préoccupation assez importante. Maintenant, il faudrait en prendre compte parce que les enfants, c'est les premiers à être touchés. Parce que c'est eux qui sont les victimes directes de notre comportement. Enfin, notre, non, des comportements des adultes. Du coup, je pense que ça pourrait aller dans un des droits aussi.
Quel regard tu portes sur une activiste écologique comme Greta Thunberg ou bien toutes les mobilisations partout dans le monde en faveur de l'environnement, contre le réchauffement climatique? Quel regard tu portes?
Je trouve ça vraiment bien qu'elle puisse faire porter sa voix de jeune aussi et qu'elle puisse même dire que c'est vraiment choquant et qu'il faut vraiment faire quelque chose, qu'elle puisse soulever des voix comme ça.
Et certains adultes lui dénient le droit de militer parce qu'elle a 16 ans. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Non, parce que justement, on est les premiers touchés. Du coup, je pense que c'est nous qui avons le plus le droit de militer parce que c'est nous qui allons vivre dans la société de demain. Du coup, je pense que c'est nous qui avons le droit de défendre nos droits plutôt que ceux qui ont un regard extérieur. Nous, on a vraiment un regard de l'intérieur.
Et toi, Charlotte?
Moi, je trouve que c'est comme quand tout à l'heure vous avez parlé de quand des parents se séparent. L'enfant, c'est un des premiers concernés. Il doit avoir un petit peu son mot à dire.
Emmanuel Lucas.
Oui, moi, je trouve que cette affaire, Greta Thunberg, elle est très révélatrice de tout le paradoxe de ces droits de l'enfant, qui restent quand même, qui ont beaucoup de mal à émerger dans la pratique. D'un point de vue théorique, c'est fait. Mais dans la pratique, ils se heurtent quand même aux égoïsmes des adultes. C'est-à-dire, pour mieux respirer, il faut prendre moins sa voiture, il faut réfléchir, reconsidérer tout le modèle économique. C'est pas simple, et là, ça va à l'encontre directe des droits, enfin, des prérogatives des adultes. Et là, on voit bien qu'ils sont beaucoup moins prêts à partager.
Comment agir, Florine Pruchon, sur ce sujet?
Déjà, je pense qu'il faut... C'est une urgence, donc je trouve que c'est vrai que la Convention... pour le climat là, qui est en cours, déjà, est-ce qu'il y a des enfants qui sont associés à cette convention pour le climat? Je crois pas.
Vous voulez par exemple renforcer les données sur l'exposition des enfants aux pollutions environnementales et sur les conséquences sur leur santé, leur développement, que l'information soit beaucoup plus largement diffusée par les autorités publiques?
Oui, tout à fait. Et puis on souhaite aussi que sur, par exemple, sur les cantines scolaires, on privilégie aussi tout ce qui est circuit court et les produits labellisés bio. Proposition faite également par la dynamique.
Ils sont membres de conseils des jeunes et pour eux, le temps d'une journée à Schiltigheim, tout est possible.
Sur la thématique du sport par exemple, ou sur le développement artistique, que ce soit au cinéma, sur le dessin, créer des espaces où les jeunes peuvent se rencontrer pour proposer leurs idées là-dessus.
J'adore donner des idées, par exemple quand il y a quelque chose qui n'est pas fait, je donne des idées pour que ça se fait.
Des idées, elle en a plein la jeunesse. Et ça fait 40 ans qu'on lui permet de les exprimer.
Alors on a fait ces affiches pour bien montrer aux gens qu'on veut qu'une ville soit propre.
1979, Alfred Müller, alors maire de la ville, crée le premier conseil municipal des enfants en France.
Tu vois, elle serait aménagée pour le moment comme les la cour, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de haut et de bas.
Objectif, les faire participer à la vie locale en les intégrant au cœur de l'administration.
Pour moi, c'est l'avenir, ce sont les citoyens de demain, ce sont eux qui auront assumé plusieurs responsabilités, plusieurs dossiers très lourds, comme je pense surtout au réchauffement climatique.
Extrait de France Info en novembre 2019. Quels sont les droits des enfants en matière de participation, Florine Pruchon? Est-ce qu'on est très en retard en France?
Alors sur la question de la participation, en fait, c'est un des principes directeurs de la Convention internationale des droits de l'enfant, puisqu'il y en a quatre, dont le droit à la participation, c'est-à-dire l'association des enfants sur toutes les décisions qui les concernent, que ce soit dans la famille, dans l'école, mais aussi dans la construction des politiques publiques. On pourra y revenir si vous le souhaitez.
Vous avez boulé.
Oui, je trouve que là, il y a un enjeu énorme, un enjeu démocratique énorme. C'est-à-dire qu'on se dit souvent, alors on voit bien qu'au moment des élections, voilà, on a des masses d'électeurs qui vont dans un camp, dans l'autre, on ne sait pas trop pourquoi, pour des raisons parfois de communication et autres, mais il faut dire que la jeunesse n'est pas formée à devenir citoyenne. Et tout à coup, il y a un droit de vote qui tombe à 18 ans sans avoir été formé, etc. Et je trouve que là, il y a un enjeu énorme parce que savoir poser des diagnostics sur une problématique, que ce soit de la ville, du collège, etc., savoir s'exprimer, savoir imaginer des solutions, savoir faire des choix, c'est-à-dire se dire, bah, par exemple, le conseil des enfants, où vous avez une partie du budget, comment on va les choisir? C'est-à-dire, est-ce qu'on choisit ça ou ça? C'est ce qui permet de faire qu'un citoyen va pouvoir comprendre, par exemple, que quand un politique dit quelque chose, bah oui, il va devoir faire des choix. Et ça, moi, je trouve qu'il y a vraiment un enjeu démocratique énorme à pouvoir faire participer les enfants et les adolescents.
Charlotte, je te vois prendre des notes.
Moi, je me dis que quand on vote comme ça, c'est comme si on comptait vraiment aux yeux de notre ville. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas ce droit un petit peu de vote pour le conseil municipal des enfants dans toutes les villes.
Mmh. Thibault Saint-Maurice.
Oui, il y a quand même une éducation nationale en France qui prend en charge la question de l'éducation à la citoyenneté. C'est quasiment mis, fléché sur même chaque programme.
De manière très théorique, théorique.
Bah, de manière théorique, oui, et en même temps, c'est là où ils expérimentent, Gabriel l'a dit tout à l'heure, c'est là où ils expérimentent aussi très concrètement ce que c'est qu'une élection. Ah, dans chaque classe, chaque année, il y a des élections.
Non, pas chaque classe. Toutes les écoles, non, ce n'est pas contraignant. Toutes les écoles n'ont pas...
Collège-lycée
Ben oui, mais primaire, par exemple...
Oui, mais les enfants, on va jusqu'à 18 ans. Donc, il y a un apprentissage progressif de cette citoyenneté. Mmh. C'est là où il l'expérimente. Après, que dans les instances de décision... devienne complexe, etc. Ça, Gabriel peut nous en parler au conseil d'administration, mais il y a quand même une éducation à la citoyenneté qui est portée aussi.
C'est vrai qu'il y a beaucoup, même au primaire, il y a beaucoup de professeurs des écoles qui mettent quand même en place des fonctionnements un peu démocratiques dans la classe. Il y a des chaque enfant a des responsabilités, et puis là, grâce à la déclaration des droits, il y a tout un travail quand même sur la notion de droit où ça, il y a beaucoup de profs qui laissent les enfants fixer eux-mêmes, avec eux, les règles de vie de la classe, par exemple.
Gabriel.
Bah oui, on forme au vote, mais après, est-ce qu'on forme assez au discernement et à savoir vraiment distinguer deux choses pour vraiment savoir ce que nous, on veut quand on va aller voter? Je pense pas assez sur ce point-là.
Florine, Lucas, comment agir concrètement pour que les enfants participent plus?
Bah, je pense déjà qu'il faut développer cette instance de participation des enfants et des jeunes. Par exemple, fin 2016, il y a un collège des enfants qui est très peu connu en France, qui rassemble 12 enfants au sein du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge. Ce sont 12 enfants qui sont associés sur des rapports étatiques pour faire des propositions au gouvernement pour améliorer les lois. Et donc, on travaille avec ces enfants et vous dites, c'est complexe. Je suis d'accord avec vous, il y a des sujets complexes, mais il y a des pédagogies adaptées pour les faire comprendre aux enfants. Et je peux vous assurer que sur quasiment tous les sujets, ils ont des choses à dire et des choses très pertinentes.
Comment les enfants peuvent-ils participer à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi des politiques publiques? Vous préconisez par exemple de réformer le Parlement des enfants pour en faire une instance effective.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, le Parlement des enfants, c'est déjà une première étape, mais c'est surtout un dispositif d'éducation à la citoyenneté, puisque c'est des classes volontaires qui participent et qui font des propositions de loi, qui débattent, et après, une d'entre elles qui va être sélectionnée. Nous, ce qu'on souhaiterait, ça serait vraiment que les parlementaires travaillent, et on sait qu'on en a qui seraient prêts à le faire aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une proposition de résolution qui a été déposée par le Parlement il y a quelques jours, et dont la participation fait partie dedans, pour que les enfants soient associés aussi quand ils travaillent sur des nouvelles lois, comme l'évoquait tout à l'heure Gwenaëlle, par exemple sur la question des temps scolaires, comment on peut aussi associer les enfants. Et je souhaiterais citer aussi une proposition d'enfant qui avait été faite l'an dernier autour de la réforme du Parlement, qui est la suivante. Nous, on souhaiterait organiser des rencontres entre parlementaires et jeunes pour débattre des sujets d'actualité et développer les consultations citoyennes auprès des enfants. C'est ce qu'ils avaient fait comme proposition au Parlement il y a à peu près un an.
Et puis on peut également utiliser les outils numériques pour inciter les enfants à participer à la vie publique.
Tout à fait. Les outils numériques sont des bonnes étapes pour les consultations. Après, je pense que des rencontres avec des petits pools d'enfants, on n'a pas besoin d'avoir des enfants experts, il faut avoir des pools représentatifs avec des pédagogies adaptées. On peut vraiment les associer et leur faire émerger des propositions concrètes d'action pour faire évoluer les politiques publiques.
Emmanuel Lucas.
Oui, une idée qui avait été avancée et qui n'a jamais vu le jour, c'est de faire finalement des études d'impact de toutes les lois qui concernent l'enfance sur les droits de l'enfant. Ça existe pour plein de choses. Les lois sont systématiquement évaluées quand elles sont adoptées, par exemple sur l'impact climatique, l'impact sur le droit des femmes, etc., mais pas sur les droits de l'enfant. Et ça, ça devrait être fait aussi.
Gabriel, est-ce qu'au conseil d'administration, je rappelle que tu es délégué dans ton collège, est-ce que tu as l'impression que ta voix porte, compte? Est-ce que tu as l'impression de participer à la fois à la vie démocratique et puis aux politiques, entre guillemets, menées dans ton établissement scolaire?
Bah oui, parce qu'on peut faire des propositions. Donc nous, on fait un recensement un peu au collège pour savoir ce qui ressort le plus. Et après, on fait des propositions et on peut même proposer des règles, des nouvelles. Après, c'est voté, bien sûr, mais on peut vraiment, au même titre qu'un adulte, proposer et investir dans des nouvelles choses.
Allez, il est temps de retrouver l'ordonnance philosophique de Thibaut de Saint-Maurice, hein, qui est professeur de philosophie dans la vie civile, hein, n'est-ce pas?
C'est ça, dans la vraie vie.
Et donc, votre ordonnance philosophique nous propose ce matin un petit contrepoint.
Oui, parce que depuis qu'on parle des droits des enfants, des droits de l'enfant, on se rend compte que tous ces droits correspondent en fait surtout à un devoir général de protection de l'enfance par les parents et les États. Tous ces droits décrivent l'enfant comme une sorte de potentiel à protéger en tant que tel pour qu'il puisse aussi s'épanouir et devenir un adulte et un citoyen heureux et libre. Mais justement, nous autres, les adultes, qu'avons-nous fait de notre enfance, Ali? Où est passé l'enfant que vous étiez? Est-ce qu'il a totalement disparu?
Il est là.
Ne crois pas. ou bien est-ce qu'il en reste des traces? Voilà, il y a un paradoxe qui m'a toujours étonné. Les enfants rêvent de devenir grands et de sortir vite de l'enfance, tandis que les adultes, eux, repensent souvent à l'enfance avec nostalgie et construisent cette période de la vie comme un âge d'or.
Ça, c'est vrai. Alors, que faire de cet enfant que nous avons été? Continuer de le protéger ou bien l'oublier définitivement?
Si la question se pose, Ali, c'est que nous vivons d'abord l'enfance comme ce que nous avons surmonté, comme ce que nous ne sommes plus. Grâce à l'éducation, chaque adulte a acquis du pouvoir sur soi et des connaissances, enfin, théoriquement. Pour le philosophe Descartes, par exemple, si nous avons des préjugés et si nous nous trompons encore, c'est parce que nous avons été enfants avant que d'être hommes. Voilà, cette enfance, il faudrait donc définitivement la tuer en nous, parce que l'enfance, c'est d'abord un état d'ignorance, d'inexercice de la raison, de passivité et de caprice. Mais l'enfance n'est pas qu'une série d'impossibilités ou qu'un ensemble de potentiels. C'est aussi une merveilleuse capacité à découvrir le monde en toute liberté, puisqu'on n'est pas encore totalement déformé par l'éducation. Alors pour régler notre rapport à l'enfance et pour continuer de protéger l'enfant qui est en chacun de nous et encore en vous, Ali, eh bien je vous propose en guise de traitement de méditer cette invitation du philosophe Nietzsche à devenir tel des enfants, comme il dit justement. Voilà, devenir tel des enfants pour nous autres adultes, hein, ce n'est pas une régression ou un retour à l'enfance perdue, mais au contraire, c'est une libération. C'est l'idée de retrouver dans nos vies sérieuses, hein, toutes pleines de responsabilités, de listes de courses, de politesses, de réunions interminables et de travail, la spontanéité du jeu, le plaisir de la découverte et la liberté de l'insouciance. Alors nous pouvons continuer de protéger l'enfance en nous, voire même continuer de lui donner quelques droits à l'âge adulte, droit de jouer, de s'émerveiller innocemment et de vouloir parfois une chose et aussi son contraire. Quelques années avant Nietzsche, hein, le grand poète Baudelaire le suggérait déjà quand il disait que le génie c'était l'enfance retrouvée à volonté. Ça veut dire que les grands artistes nous montrent la voie, ils voient le monde comme des enfants, sans filtre, dans sa simplicité première. Et c'est pour ça que souvent leurs œuvres nous bousculent. Voilà, en vrai, comme disent les enfants, nous ne serons donc plus jamais des enfants et nous ne pourrons pas le redevenir. Il ne s'agit donc pas de retomber en enfance, mais nous autres adultes, hein, qui aimons le souvenir de notre enfance et puis qui devons protéger l'enfance de nos enfants, eh bien ça doit être une invitation à garder ou à retrouver une simple capacité d'émerveillement devant ce qui est et ce qui arrive.
Et à titre personnel, moi je m'émerveille à chaque fois que je consulte le très bel album de Sempé, Enfance. Alors là, je peux vous assurer que voilà, c'est un trésor pour retrouver son enfance, son esprit d'enfance. Allez, nous continuons à célébrer le droit des enfants. Fréquence Mom, ce matin, les jeunes peuvent nous appeler pour nous parler de leurs droits au 01 45 24 7000.
Est-ce que c'est assez ou suffisant? Est-ce que c'est assez puissant pour te retenir ici-bas avec moi, pour te maintenir intact en état?
Interpréter assez.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
11h moins le quart, journée spéciale sur France Inter à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale du droit des enfants. Un mail d'une infirmière scolaire qui nous dit qu'il y a en France 7600 infirmières scolaires qui chaque jour cadrent des consultations, accueillent, écoutent, orientent les élèves. Florine Truchon, faut pas oublier je crois que c'est vous.
Oui, non, mais on n'oublie pas ce qui existe.
Les infirmières scolaires.
Il y a plein de choses bien qui se font,
qui aident à faire valoir le droit des enfants. Alors, protéger les enfants de toutes les violences, c'est l'un de leurs droits fondamentaux, Florine Truchon de SOS Village d'Enfants. Comment agir concrètement? Quelles sont vos préconisations?
Alors, la dynamique de la Convention aux actes aujourd'hui dévoile 69 propositions. Parmi celles-ci, il y en a 3 qui concernent la prévention des violences. Je vais les énumérer. Donc, la première, c'est de renforcer le 119 ou le 119.
Pour les plus petits.
Pour les plus petits, tout à fait. Donc c'est le numéro que n'importe qui peut appeler, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour signaler des cas de violence ou de maltraitance. Donc c'est important d'améliorer sa visibilité auprès des enfants, des parents et des professionnels, parce qu'on voit qu'encore trop peu de gens le connaissent.
119.
119. Ça, c'est vraiment un numéro important qui est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Et qui ne s'affiche pas sur le portable ? C'est-à-dire que vous pouvez le passer de vous pouvez passer un coup de fil le 119 sur un portable, il s'affichera pas dans l'historique des appels. C'est important de le dire parce que maintenant il y a plus de téléphone fixe chez les gens.
La deuxième proposition qu'on fait, c'est celle de décloisonner les politiques publiques de petite enfance et de soutien à la parentalité pour co-construire une transversalité opérationnelle qui permette de répondre aux besoins des familles. Et la troisième, c'est de renforcer considérablement les moyens de la PMI, c'est-à-dire la protection maternelle infantile, pour lui permettre d'assurer inconditionnellement ses missions d'information, de prévention des risques et d'accompagnement, et articuler ses services avec l'ensemble des acteurs de la périnatalité, c'est-à-dire la maternité, les pédiatres, les médecins, etc.
Gabrielle, Charlotte, vous connaissiez l'existence de ce numéro, le 119, Charlotte ?
Moi, le 119, oui, parce que souvent dans mon école maternelle et dans mon école primaire, et ben il y a beaucoup d'affiches comme ça, et j'en vois dans les pharmacies, et même derrière le petit livret, je crois qu'il y en avait.
Gabrielle ?
Oui, bah pareil, chez l'infirmière, dans le collège, il y a des affiches avec les numéros. Après, est-ce que ça suffit ? Je suis pas sûre, mais au moins on en a conscience.
Bonjour Thierry Beccaro.
Ah bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous.
Ben
merci
aussi.
De votre invitation, Ali.
Animateur de télévision et comédien bien connu des Français, vous avez été nommé ambassadeur d'UNICEF, un titre prestigieux pour faire avancer la cause des enfants. Vous avez été victime, vous, de la violence physique de votre père. Vous racontez ces événements douloureux dans votre biographie qui a connu un grand succès.
Oui, c'est un chemin assez étonnant qui m'amène jusqu'à vous. Et c'est pour ça que j'étais très touché par votre invitation. Je réfléchissais comme ça hier en repensant à tout ça et je me faisais cette réflexion toute simple et vraiment très terre à terre. Vous avez remarqué, les enfants qui sont avec vous, là, vous comprendrez ce que je veux dire. Quand on est enfant, on a des devoirs. On a des devoirs à l'école, on a des devoirs à la maison, on a des devoirs en famille.
Oui, Thierry, vous êtes avec nous toujours ? Est-ce que vous êtes avec nous ? On va vous reprendre Emmanuel Lucas sur le droit des enfants en matière de protection contre les violences des adultes.
Ouais, alors là, c'est quelque chose sur lequel il y a quand même une tolérance qui s'approche par contre du zéro maintenant quand même. Ça émerge dans l'opinion publique. Il y a quand même vraiment un mouvement de fond là-dessus. Après, c'est difficile et compliqué parce que 80% des violences sont intrafamiliales, donc il n'y a pas un juge derrière dans chaque chambre d'enfant pour voir ce qui s'y passe. Donc c'est quand même difficile pour des tout-petits de réussir à dénoncer et à demander de l'aide. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais on voit bien quand même que la société là-dessus évolue quand même. Moi je suis assez optimiste parce qu'on voit bien que des institutions bougent. Là aujourd'hui d'ailleurs, je crois que le président Macron, à l'heure où on parle, annonce le plan contre les violences faites aux enfants. Chaque gouvernement maintenant a à cœur de marquer son espace sur ces questions-là et veut laisser sa trace. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Après, c'est des mouvements tectoniques extrêmement difficiles. Voilà, ça prend des générations avant de changer les mentalités, les mœurs, etc. Mais le mouvement est enclenché quand même.
Gonel Boulet.
Oui, je pense qu'il faut être optimiste. Je pense qu'effectivement la société change. Je pense qu'on a un petit peu arrêté de penser que tout ça appartenait à une famille et qu'on n'avait rien à faire dessus. Quoique, on voit que c'est très très compliqué quand on pense que, on suppose que, mais on sait pas à qui le dire. Est-ce qu'on s'immisce pas dans la vie d'une famille ? Je trouve que c'est encore assez compliqué là-dessus, qu'on n'est pas encore complètement tous bien formés et informés. Et puis, c'est sûr qu'après, j'ai envie de dire, plus on en a conscience et plus on doit être exigeant sur les moyens mis en œuvre pour protéger les enfants.
Emmanuel Lucas, il a fallu du temps pour que les enfants se rendent compte que leurs parents ne sont pas tout puissants et qu'il existe des autorités supérieures pour les protéger.
Oui, c'est vrai. Alors maintenant, c'est un peu rigolo et anecdotique, mais c'est vrai qu'un tout petit, quand on lui demande d'aller au lit, il va dire « Ah ben non, parce que moi j'appelle le 119 !» Machin. Donc évidemment, c'est pas ça les droits de l'enfant. Mmh. C'est bien, c'est des choses tout à fait fondamentales et pas du tout pour la contestation de base sur des petites choses. Mais c'est vrai que quand même, l'idée émerge que les parents n'ont plus tout à fait tous les droits. Alors, ils savent pas. Ils connaissent pas la convention. C'est vrai, ils sont incapables de citer un article. Mais quand même, bon an, mal an, il y a quand même l'idée que papa et maman font pas n'importe quoi, quoi. Et que eux aussi, ils ont leur petite marge de liberté et qui doit être protégée.
Beaucoup de parents se sont inquiétés de l'impact de ces droits de l'enfant sur leur autorité parentale, sur leur éducation.
Ah ben, ça a été homérique. Les débats à l'époque, quand même, il faut voir que la convention, le premier projet date de 1923. C'est en 1989 qu'elle a fini par être adoptée. Donc c'est dingue. Et à l'époque, ça a soulevé les passions. Et même des gens comme Irène Théry, par exemple, était vent debout contre, en disant, les enfants ont un droit à l'innocence. Si on leur crée des droits, on leur crée en symétrique des responsabilités. Donc, on ne leur crée pas de droits. Maintenant, c'est une façon de penser qui est quand même déclinante, mais on voit bien que c'est quand même toujours un petit peu dans l'air du. Il y a quand même parfois des petites réactions. Bon, quand même, les droits des enfants,
et,
ça va quoi.
Et dans le même sens, je cite le philosophe Alain Finkielkraut, voir en lui, en l'enfant, une personne achevée et non une personne en devenir, c'est sous l'apparence du libéralisme le plus généreux lui dénier férocement la légèreté, l'insouciance, l'irresponsabilité, qui sont ses prérogatives fondamentales pour l'exposer alors qu'il est sans défense à tous les conditionnements, à toutes les convoitises. Gounelle Boulay.
Oui, mais j'ai envie de dire, là, on était parti sur la protection de l'enfance, quoi. C'est pas rien, la protection de l'enfance. Je veux dire, le droit à tout enfant d'être protégé de toute violence, qu'elle soit psychologique, physique, sexuelle, puisqu'on a fait il y a pas longtemps non plus plein de choses autour des violences sexuelles qui sont encore des choses extrêmement difficiles à recueillir. La parole de l'enfant est très difficile à recueillir. Parce qu'il est en conflit de loyauté. Il a beau avoir des droits théoriques, après il y a ce qui se passe dans sa famille, et on le sait, et quoi, j'espère qu'on aura à nouveau la voix de Thierry Beccaro, mais on sait à quel point un enfant qui est battu, à chaque fois on se dit, mais pourquoi il ne l'a pas dit, pourquoi ? Mais parce que c'est extrêmement difficile.
Nous avons récupéré Thierry Beccaro, ambassadeur d'UNICEF.
Oui, je suis là, et ce que vous disiez est tellement vrai, c'est tellement important. On se sent tellement seul. Un enfant, comme je le disais tout à l'heure, n'ayant pas la structure psychologique pour comprendre ce qui lui arrive, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'écouter, faire en sorte qu'il puisse parler. Et c'est très très compliqué tout ça, je le sais, parce que un des mots majeurs et des mots maîtres de cette émission, ça doit être l'enfermement. Mmh. C'est-à-dire, d'abord, on n'enferme pas un enfant. Et un enfant battu ou un enfant violenté, c'est un enfant qui va s'enfermer. Parce que on se retrouve dans une très très grande solitude. Et ça, s'il n'y a pas des adultes pour s'occuper d'eux et écouter leur voix, parce que je pense que les enfants, on doit entendre leur voix, pas leur cri. Mmh. C'est ça le plus important aujourd'hui. C'est ça qu'il faut retenir. Et je pense que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des enfants, ils prennent ce qu'on leur donne. Il y en a, ils ont de l'amour, et puis d'autres qui ont des coups. Et parfois, ils comprennent pas pourquoi ils prennent des coups. Donc, cette journée de cet anniversaire, ça doit être une journée où on se dit qu'il y a des choses qui ont. J'ai écouté l'émission, des choses qui avancent, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour aider tous ces enfants. Quoi, voilà.
Comment soutenir
cet
les.
Cet après-midi, je crois que le président fera une annonce d'ailleurs à l'UNESCO devant 400 enfants. Ça aussi, ça va être important.
Thierry Beccaro, comment soutenir les actions d'UNICEF? D'ailleurs, un autre ambassadeur d'UNICEF sera invité à 13h chez Bruno Duvic. Comment on soutient les actions?
Comment on soutient l'UNICEF, mais comme on soutient d'autres associations, en étant présent, en faisant ce qu'on peut faire à son niveau. Il y a des adolescents qui sont des bénévoles pour l'UNICEF. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a des enfants qui vont bien, qui vont mieux que d'autres, et qui peuvent peut-être s'occuper de ceux qui, dans la cour de récré, sont un petit peu seuls, un petit peu en difficulté. Ça, c'est important. Et puis, simplement se renseigner, voir comment est-ce qu'on peut être utile. Moi, c'est ça qui m'intéresse avec je vais dire ma notoriété, c'est de la mettre au service des autres. parce que sinon, bon, voilà, comme disait Julien Clerc, à quoi sert une chanson si elle est désarmée? Voilà, il faut être utile. C'est ce que j'essaie de faire et avec l'UNICEF et avec d'autres associations, parce qu'il faut qu'on soit main dans la main, quoi.
J'aimerais que vous veniez en janvier, Thierry Beccaro, pour nous parler des actions d'UNICEF. On prend date pour 2020.
Avec grand, grand plaisir, vraiment.
Merci beaucoup, Thierry Beccaro. Florine Pruchon.
Oui, je voudrais revenir sur un dernier point autour de la protection des enfants et de la connaissance des droits. Je souhaiterais dire aussi aujourd'hui qu'on a une défenseure des enfants en France qui s'appelle Geneviève Avenard, qui est une adjointe de la défenseure des droits et qui peut être saisie. Elle travaille avec toute une équipe si on estime que les droits d'un enfant ont été bafoués. Mmh. Et même vous, les enfants, vous pouvez la saisir directement. C'est très simple, vous allez sur le site défenseur des droits, il y a un petit onglet où chacun peut faire une recommandation, vous pouvez téléphoner directement et on a également des représentants dans les différents territoires.
Charlotte, tu connaissais l'existence de la défenseure des enfants ?
Des fois, on parle de quelqu'un qui défend les enfants. Mais je savais pas qu'il y en avait une en partie, enfin une seule qui s'occupait de tout ça. Je pensais que c'était une sorte d'entreprise ou quelque chose comme ça.
Bonjour Didier Pleu, on termine avec vous.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue clinicien. Vous avez notamment publié en poche Dick Jacob, De l'enfant roi à l'enfant tyran. Allez, est-ce que, de votre point de vue de psychologue qui s'intéresse aux enfants et aux adolescents, est-ce que les droits de l'enfant ont déstabilisé l'autorité parentale?
Non, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est vrai que je vois toujours au cabinet des enfants qui souffrent d'une parentalité qui néglige leurs droits. Par exemple, trop de pression pour l'école, le non-respect des singularités. Donc là, il y a toujours des parents qui interdisent le rêve. Mais je vois surtout à mon cabinet des enfants qui rêvent trop. Des enfants qui sont un peu hors réalité. Alors, est-ce que c'est un rapport entre ils ont trop de droits et pas assez d'obligations? Quelquefois, je le pense quand je vois qu'ils sont dans des pathologies, par exemple, de la survalorisation. Oui, on a le droit à être soi, mais être dans un ego hypertrophié, c'est un peu trop. Oui, on a le droit d'être protégé, mais surprotégé, c'est le refus des réalités. Oui, on a le droit au plaisir, mais surstimulé, c'est le refus du manque. Donc, je vois des enfants qui sont malheureusement malheureux, parce qu'ils sont dans un monde virtuel où il n'y a que des droits et très peu de devoirs et d'obligations, et quand la réalité devient difficile, ben ce sont toutes ces pathologies d'intolérance aux frustrations. Et j'ajouterais un dernier mot, je vois aussi beaucoup, beaucoup de parents qui sont maltraités. Alors je voudrais pas gâcher la fête aujourd'hui, mais je crois qu'il faudrait faire aussi une journée des parents, parce qu'il y a aussi un burn-out parental, parce qu'effectivement, ils sont sous cette pression d'exigence, les enfants ont des droits, mais non, ils n'ont pas les mêmes droits que les droits des adultes. Moi, je refuse toujours l'horizontalité qui peut être la source de graves problèmes avec le réel.
Merci beaucoup Didier Pleu pour votre intervention. Gonelle Boulet, donc le livret « Tous les enfants ont des droits » à destination des jeunes est disponible gratuitement.
Oui, il est disponible gratuitement, téléchargeable sur bayardjeunesse.com, mais vous le trouverez assez facilement, je pense. Et puis, effectivement, il va être distribué par de nombreuses associations, et puis les abonnés ont pu le recevoir.
Merci Florine Pruchon de SOS Village d'Enfants. Merci Emmanuel Lucas, votre papier est à lire dans La Croix de ce jour. Merci également à Gabriel et Charlotte d'être intervenus. Je crois que vous êtes prêtes à prendre ma place. Allez, dans combien de temps, Gabriel? Dans 10 ans, hein, 10-15 ans, hein?
Allez,
la journée spéciale se poursuit à 13h avec Bruno Duvic qui reçoit le judoka Teddy Riner, ambassadeur d'UNICEF. Vous pouvez évidemment poursuivre la conversation, échanger, vous entraider sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Demain, on s'intéresse au basket, aux sneakers que l'on met au pied. Analyse économique, sociale et anthropologique d'un phénomène mondial qui touche tous les âges et toutes les catégories de la population. À demain.